Et ce matin, nous recevons Makaïla Nguebla, qui est avec nous en direct dans les studios. Makaïla, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors tout d'abord, je pense que le studio de Motoko ne vous est pas inconnu, puisque vous êtes venu à l'émission de ce lundi « Éducation aux médias pour tous ». Vous avez parlé de nombreux sujets, dont la liberté d'expression et l'opération de la Maison des journalistes qui permet de rencontrer d'autres journalistes français. Et puis, de manière générale, on peut dire que les studios de radio ne vous sont pas inconnus, puisque Makaïla, en étant journaliste et blogueur, je pense que vous baignez et vous êtes engagé dans cet univers médiatique. Alors, avant de laisser la parole et de commencer cet échange donc avec Mokran et Gaël qui sont présents, je tiens à rappeler, Makaïla, que vous êtes journaliste et blogueur tchadien. Vous êtes réfugié politique en France depuis 2013. Et sur votre site internet www.makaïla.fr, on peut lire « Makaïla, plume combattante et indépendante ». Alors aujourd'hui, on aimerait donc mieux connaître cette plume combattante et indépendante à travers votre parcours et votre vécu en tant que journaliste. Et vous êtes ici également dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, donc qui se déroule du 21 au 26 mars. Et plus particulièrement à l'école de la Maison d'arrêt de Mulhouse, au sein de l'unité locale d'enseignement. Alors, est-ce qu'on peut commencer par ça et puis me dire comment vous intervenez dans le cadre de cette semaine de la presse et des médias à l'école?
Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Merci pour le lancement. Je pense que vous avez bien présenté l'émission et présenté mon parcours. Avant tout, je m'incline sur la mémoire des personnes qui ont été abattues lâchement à Bruxelles lors des attentats d'hier. Et je condamne avec la plus grande fermeté ces attentats terroristes à l'encontre des paisibles citoyens et qui, effectivement, terrorisent pratiquement toute la communauté internationale et toute l'humanité. Et donc, voilà, comme vous l'avez dit, je suis Makaïla Nguebla. Je suis venu dans le cadre de cette semaine nationale de l'éducation aux médias, invité par la maison d'arrêt de Mulhouse, mais aussi invité par un autre lycée avec les élèves de Sciences Po pour échanger avec eux sur les enjeux relatifs à la liberté d'expression et à la liberté de la presse au moment où, dans ces moments cruciaux où les journalistes sont devenus la cible de groupes extrémistes. Effectivement, la liberté de la presse revêt un enjeu important, c'est un acquis considérable, non seulement ici en France, mais cet acquis aujourd'hui menacé, effectivement. Et donc, il appartient à la maison des journalistes et aussi au CLIMI, le centre de liaison pour l'éducation aux médias, d'envoyer un journaliste vers des écoles, vers de lieux de détention pour sensibiliser les élèves, sensibiliser les détenus sur cet enjeu. Effectivement, d'où l'intérêt de la maison d'arrêt de Mulhouse à penser, à faire intervenir un journaliste pour sensibiliser les détenus sur cet aspect très important. Vous savez, aujourd'hui, la liberté d'expression et connaît non seulement un recul, mais connaît une menace très très dangereuse, surtout avec les événements de Charlie Hebdo où plusieurs journalistes ont été tués, et même à cela s'ajoutent les enlèvements, effectivement, par exemple en Syrie et même au Mali, la tuerie des journalistes. Donc du coup, on voudrait à travers cette mission, bien cette opération, rencontrer ces élèves, rencontrer les détenus et les sensibiliser pour qu'effectivement qu'ils sachent que le journaliste n'est qu'un acteur indispensable dans la transformation de la société, mais un acteur aussi indispensable dans la cohésion sociale, dans l'unité, la paix et la stabilité, et qu'il ne doit pas être en fait pris pour cible par les belligérants ou bien pris pour cible par des groupes qui pensent que le journaliste est celui qui est effectivement appelé à la haine. Et nous, notre mission est de faire en sorte que la liberté d'expression soit préservée et soit effectivement maintenue pour que la cohésion règne entre les différentes composantes nationales, que ce soit en France ou bien dans le monde entier.
Pour mieux vous rapprocher des auditeurs de la radio MNE, parlons un peu, Makaïla, de votre parcours. On sait très bien que vous avez contraint à quitter votre pays.
Tout à fait.
Vous avez été privé aussi de votre statut de réfugié politique au Sénégal.
Tout à fait.
Privé de tous vos droits.
Tout à fait.
Si la France vous a accueilli, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre périple?
Exactement, merci beaucoup.
C'est juste dire. Hein.
Exactement, ça revient souvent, en fait, lorsque je fais des interviews avec des médias. Mon parcours est un parcours tout à fait atypique, un parcours particulier. J'étais d'abord étudiant tchadien en Tunisie. Et dans les années 2000 à 2005, j'ai été auteur de plusieurs billets qui ont été publiés dans l'hebdomadaire Champ d'Afrique, billets dans lesquels j'ai dénoncé un peu l'injustice sociale, la distribution de bourses d'études sur des critères non objectifs au Tchad, mais aussi la confiscation du pouvoir par un clan, notamment le clan du président Idriss Déby, qui est au pouvoir depuis 90. Donc, dès 2005, j'ai été interpellé à la demande du Tchad par les autorités tunisiennes à la police et qui m'a demandé, qui m'a fait signifier effectivement que j'étais en état d'arrestation et qui a décidé, la police tunisienne a décidé de me faire renvoyer vers mon pays d'origine, le Tchad. J'ai eu la vie sauve grâce au soutien d'une amie française qui était à Tunis dans le cadre de ses recherches, notamment elle a enseigné.
Ça veut dire votre pouvoir vous poursuivait même en Tunisie. Exactement. Même dans les pays où vous étiez là.
Tout à fait. Donc le pouvoir tchadien a le bras long jusqu'à aller plusieurs opposants tchadiens ont été ramenés de pays voisins. Et imaginez-vous, moi j'étais en Tunisie, au nord de l'Afrique, le gouvernement tchadien avait demandé à la Tunisie de me faire virer de la Tunisie et ils m'ont arrêté pour me renvoyer au Tchad. Et cette amie française dont je vais dire le nom, elle s'appelait Anne Picard, que j'ai connue dans le cadre de rencontres dans une société qui s'appelle la société française d'entraide et de bienfaisance qui est basée à Tunis. Et elle, c'est elle qui était intervenue quand je lui ai envoyé un SMS pour lui expliquer que j'étais...
Vous étiez menacé.
Voilà. Donc elle intervient devant le société tunisienne en leur faisant savoir que j'étais son ami et qu'elle voulait savoir les raisons de mon interpellation. Et c'est comme ça que le société tunisienne, notamment la police, lui a fait comprendre qu'elle est française et elle n'a pas à s'immêler dans une affaire qui ne la concernait pas.
D'accord.
Et donc elle a eu le réflexe d'alerter des avocats tunisiens qui à leur tour ont été expulsés du bureau des renseignements tunisiens parce que les avocats tunisiens qui étaient venus se mobiliser pour moi, ils ont été chassés. Et vous savez, dans votre chronique ce matin, vous parlez du printemps arabe.
Oui, c'est ça.
Et
oui.
Donc ça montre effectivement l'inquiétude autour de la préoccupation de mon histoire. Et donc Anne Picard, elle a essayé cette fois-ci d'alerter sa propre famille qui vit à Lyon. Et donc sa famille a mobilisé maintenant les ONG Défense des droits de l'homme française qui ont mobilisé à leur tour les ONG internationales comme Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme et qui ont fait une pression sur la Tunisie pour éviter à ce que je sois expulsé vers mon pays d'origine, le Tchad. Donc on m'a expulsé cette fois-ci vers le Sénégal où j'étais arrivé au Sénégal en 2005.
D'accord, voilà. Restons toujours dans le même ordre d'idée. On sait très bien que vous avez des amis qui ont été emprisonnés au Tchad parce qu'ils étaient incriminés, c'est-à-dire selon qu'ils étaient rentrés en contact avec vous. Et je suppose qu'ils sont toujours en prison actuellement. Et j'ai appris aussi, en cherchant un petit peu sur votre pays, qu'en 2010, il y avait quand même une soi-disant loi qui en supprimait les peines de prison pour les délais de presse. Mais quelle en est la réalité au Tchad aujourd'hui?
Écoutez, au Tchad, la presse connaît, surtout la liberté de la presse en général, connaît une restriction très dramatique, notamment les journalistes. Le Haut Conseil pour la communication avait adopté une loi visant effectivement à demander aux journalistes, à toutes les rédactions, avant toute publication d'un article ou bien du contenu de l'article, que ces articles soient lus par le Haut Conseil pour la communication.
Donc, excusez-moi, juste pour expliquer à nos amis éditeurs, ça veut dire dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle des commissions de lecture dans beaucoup d'instances. Exactement. Là où le journaliste est obligé d'envoyer son reportage ou son papier avant qu'il fasse à la diffusion.
Exactement. Donc, c'est des mesures, pour moi, c'est des mesures restrictives qui empêchent aux journalistes de travailler librement dans le contenu de son journal. Et donc, ça montre déjà à l'époque, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qu'au Tchad, l'État contrôle pratiquement les médias et c'est déplorable. Et c'est en ce sens que moi, qui n'existais pas au Tchad, c'est au Sénégal. Et arrivé au Sénégal, j'ai demandé l'asile politique, il m'a été refusé. En plus de cela, j'ai milité et j'étais même journaliste dans une radio locale qui s'appelait Manoré FM, où je donnais la parole aux migrants qui sont de retour. Et je donnais la parole aussi à des journalistes sénégalais et des militants associatifs pour analyser effectivement les phénomènes migratoires et faire en sorte qu'un regard soit porté sur cette question dramatique. Et mon blog, comme vous l'avez dit, c'était visé à dénoncer les agissements du régime tchadien jusqu'à ce que je sois de nouveau arrêté en 2013. À la demande du Tchad qui voulait me virer du pays et me renvoyer vers mon pays d'origine. Mais il a fallu une mobilisation encore de nouveau des organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, Reporters sans frontières, Internet sans frontières, pour dénoncer effectivement cet agissement du régime tchadien et la complicité du Sénégal.
Revenons justement à votre blog qui connaît un grand succès, qui existe depuis 2007, c'est ça ?
Tout à fait.
Donc aujourd'hui, comment pensez-vous contribuer à la conscientisation ou à la construction de, ça veut dire d'un idéal démocratique au Tchad de demain, sachant que la chose est vraiment très difficile.
Absolument.
Et j'aimerais bien aussi vous poser une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que dans votre pays, le Tchad, l'opposition est apte à devenir un contre-pouvoir et à prendre le pouvoir ?
Absolument.
Est-ce que vraiment on est dans cette dynamique ?
Mais écoutez, c'est une question pertinente. C'est vrai, au Tchad, les difficultés sont majeures, hein, parce que le Tchad, vous savez, le gouvernement français est totalement responsable de ce qui se passe au Tchad, étant donné que M. Déby est arrivé au pouvoir grâce au soutien de la France. Il s'est imposé contre la volonté de son peuple et avec le soutien, je disais, tacite du gouvernement français. Et la mobilisation est très faible au Tchad. On n'a pas une presse totalement indépendante. On n'a pas une société civile mobilisatrice comme au Niger, comme au Sénégal, comme dans d'autres pays africains ou en Afrique du Sud, ou bien même comme en Tunisie. Et l'opposition tchadienne n'a pas pu vraiment faire bouger les choses depuis un certain temps. Et moi, grâce à un blog depuis l'étranger, j'ai porté un coup dur à l'image du régime tchadien en mobilisant la communauté internationale et en attirant surtout l'attention de la communauté internationale sur la situation que vit le peuple tchadien. Ce qui m'a valu, comme vous l'avez dit, deux expulsions. Et l'expulsion, la dernière expulsion de 2013, a surtout braqué les radars ou bien les phares, les projecteurs de la communauté internationale sur le Tchad, parce que l'Union européenne a été alertée, mais aussi l'ONU a été alertée. Et moi, quand j'étais arrivé en 2013 en France, j'étais auditionné par le Parlement européen à Bruxelles. À Bruxelles, j'étais l'invité de Mme Eva Joly, qui est élue de Verts, et qui m'a demandé, au niveau de la commission développement, d'intervenir devant les parlementaires européens dans le but de les informer ce qui se passe au Tchad. Et mon axe d'intervention était porté notamment sur l'aide publique au développement. J'ai demandé à l'Union européenne, aux parlementaires européens, de faire en sorte que les critères d'exigence à la démocratie doivent être conditionnés dans l'aide publique au développement, notamment l'aide à la presse, aux médias libres et l'aide aussi à la société civile. Pourquoi les médias libres ? Il faut que les journalistes soient libres d'informer objectivement sur ce qui se passe dans leur pays sans être inquiétés. Et pourquoi j'ai demandé d'insister sur l'aide à la société civile ? Parce qu'il faut que la société civile ait les moyens conséquents de ses ambitions. Or, la société civile du Sud n'ont pas les moyens de leurs ambitions comme la société civile du Nord.
Exactement.
Donc, l'Union européenne, on leur a demandé, surtout moi, j'ai demandé aux parlementaires européens de soutenir effectivement une dynamique, comme vous l'avez dit, une dynamique associative et médiatique pour effectivement renforcer les acquis démocratiques. Or, l'Union européenne pense plutôt à la question sécuritaire. Or, la question sécuritaire ne doit pas être vraiment un impératif et en reléguant le second rang, les revendications démocratiques.
La discussion avec vous est passionnante. On va revenir vers vous avec cette pause musicale.
Merci. Et oui, et c'est un titre que vous connaissez peut-être, Makaïla. Ngebla, c'est Maître Gazonga, les jaloux saboteurs, qui, donc contrairement à vous,
exactement,
lui, il a beaucoup souffert partout ailleurs dans le monde,
exactement,
et il veut revenir à N'Djamena.
Donc une chanson,
merci,
qui est dédiée à tous les militants qui battent pour un idéal meilleur.
Tout à fait. Merci Gaël.
Messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller?
Ok, d'accord.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop. Jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, souhaitent ma misère. Et voilà mon problème.
jaloux sa beauté aux yeux de crocodile. Veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème.
Allez, viens sur Radio MNE.
Et vous êtes toujours dans la matinale, dans le Frühstück de la Radio MNE. Ici Gaëlle, en ligne, en direct avec Makaïla Nguebla, un journaliste tchadien, blogueur, qui travaille notamment à la Maison des journalistes à Paris. Nous vous avons déjà interrogé sur votre métier, sur votre parcours. On va peut-être maintenant s'intéresser davantage au Tchad, à votre pays d'origine. En ce moment, au Tchad, ce sont les présidentielles qui vont débuter le 10 avril prochain. Et Idriss Déby, l'actuel président, se représente une seconde fois.
Tout à fait.
Dans un contexte politique assez tendu, donc selon le site internet Jeune Afrique, il y a de nombreuses personnes de la société civile qui ont déjà été arrêtées, notamment Mahamat Nour Ahmed Ibedou, qui a été arrêté lundi, et deux autres personnes mardi dernier. Donc, et puis un opposant dont la candidature a été carrément refusée, donc il n'a pas pu se présenter à l'élection, Yorongar.
Tout à fait.
Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur ce contexte un peu tendu ?
Merci Gaëlle. Effectivement, je dénonce avec la dernière énergie effectivement l'arrestation de membres de la société civile Mamounou Ibedou de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Je dénonce également aussi l'interpellation de Nadjo Kaena, qui est de la société civile, membre du mouvement citoyen INA. Et je dénonce également l'arrestation hier de Younous Mahadir, qui est membre de la société civile, notamment l'Union des syndicats du Tchad. Et vous l'avez également, le rejet de la candidature de Ngarledi Yorongar. Ça montre que l'élection se prépare dans un contexte agité, contexte aussi tension sociale, tension politique. Et dans ces cas, on ne peut pas organiser une élection présidentielle le 10 avril. Normalement, on ne devait pas, la tenue de cette élection ne peut être qu'une mascarade pour légitimer une fois de plus ou bien donner la victoire au président Déby, qui a déjà fait 26 ans au pouvoir, 26 ans d'échec total. J'en appelle effectivement une fois de plus à la communauté internationale et j'en appelle à la France d'être beaucoup plus regardante sur la question tchadienne et que encore on assiste à une mascarade électorale et que la France ne doit pas cautionner cette mascarade électorale.
Et les cartes semblent d'autant plus biaisées qu'un article du journal Mediapart révélait récemment que la France avait envie d'influencer cette nouvelle présidentielle. Est-ce que vous en savez un peu plus?
Mais justement, je tout à fait. Hier, avant-hier, il y avait l'article qui a été publié sur Mediapart par Clément Fayol, journaliste d'investigation qui travaille sur le Tchad, et j'adhère totalement à sa position parce qu'il est parti au Tchad, il a vu de l'intérêt de la société tchadienne avant de ressortir et de venir en France. Et ce que nous avons redouté depuis un certain temps, c'est le silence de Paris depuis un certain temps. Nous avons demandé à Paris de se prononcer sur la situation au Tchad. Or, au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a un silence total. Et ce silence, pour nous, ne fait que vraiment nous confirmer dans nos analyses sur la situation au Tchad. Et Paris doit effectivement, soit la France soutienne un processus démocratique effectif au Tchad, soit que la France appelle l'Union européenne ou bien les institutions internationales à intervenir sur le Tchad.
Mais Kaela, si on parle un petit peu de votre pays, comment la société civile et les partis politiques d'opposition se mobilisent aujourd'hui pour parer un petit peu ou pour essayer d'empêcher ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un mouvement qui est en train naissant ou est-ce qu'il y a une organisation qui est en train de faire sur le terrain?
Merci beaucoup. Effectivement, le mouvement social s'est reconstitué notamment autour de ce qu'on appelle Iyina en arabe. On est fatigué, ça c'est le premier. Il y a un mouvement social qui s'appelle Trop sur Trop, il y a un autre mouvement qui s'appelle Ça suffit, structuré autour de grosses machines associatives comme la Ligue italienne des droits de l'homme, l'Union syndicale du Tchad. Parce que vous savez, au Tchad, la manifestation est systématiquement interdite. La société civile ne peut pas mobiliser, ne peut pas manifester. L'opposition a été souvent interdite de manifester. Et dans ces cas, comment peut-on organiser, effectivement, comment peut-on effectivement mobiliser les citoyens dans la rue de N'Djamena, comme ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte ou bien en Libye? Donc la difficulté d'abord, c'est une difficulté de manifester. Et le droit de manifester dans ces pays est totalement interdit. Et constitutionnellement, en fait, la manifestation est autorisée, mais sur le terrain, elle est interdite.
Alors, il me semble que des solutions alternatives se mettent en place pour les citoyens pour manifester leur mécontentement avec une opération sifflet, sifflet citoyen qui serait proposée pour demain. Les Tchadiens siffleraient en fait à 5h30 et à 21h30 pendant 15 minutes.
Tout à fait. En fait, c'est une initiative des mouvements citoyens qui sont émergés ces derniers temps, qui ont vu face à des difficultés, comme l'a dit Gaël, des manifestations sur le terrain. Les gens ont préféré rester chez eux et manifester ou bien faire des tintamarres avec des marmites pour dénoncer effectivement cette situation. Et là, c'est au vu au su des institutions internationales comme l'Union européenne qui sont présentes. Le commissariat pour les réfugiés sont présents, l'ONU sont présents au Tchad. Mais il y a un silence total, un silence radio, un silence complice de ces institutions par rapport au Tchad. Donc nous, on pense qu'on est à l'étranger et on en appelle de nos voeux effectivement à une implication massive de la communauté internationale sur la question tchadienne. Sinon, effectivement, on pourrait aller tout droit vers une situation de confrontation où d'un côté l'armée tchadienne structurée autour d'une armée clanique, notamment celle de Déby, qui est là au Tchad armée, et que la communauté internationale pense que le Tchad a une armée forte dans la lutte contre le terrorisme, alors que nous on a besoin aussi de la démocratie qui est une valeur universelle.
Aujourd'hui aussi, on assiste aussi à beaucoup de mouvements qui agissent un petit peu sur le terrain. Si on parlait un petit peu de Boko Haram, beaucoup de gens connaissent un petit peu cette secte qui est active sur le terrain. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus pour un petit peu informer les auditeurs de la radio MNE?
Oui, justement, Boko Haram, à un moment donné, c'était une fabrication de M. Déby lui-même. Il en a fait, effectivement. Déby, aujourd'hui, il a trouvé un alibi autour de la lutte contre le terrorisme pour, effectivement, faire comprendre aux Européens qui regardent. Vous avez fait partir Gaddafi et la situation s'est embourbée au nord de l'Afrique. Or, il s'est positionné en un acteur clé dans la lutte contre, un maillon fort dans la lutte contre le terrorisme, notamment en Afrique noire et dans le Sahel. Et du coup, la position de la France, la position de l'Union européenne fait en sorte qu'on dit que Déby doit rester parce que Boko Haram est là, parce que les groupes terroristes sont aussi en Libye. Et donc, Déby est devenu un allié, un maillon, je dirais, un axe important pour la stabilité sur les gens. Or, pour nous, Boko Haram a été une constitution totale de M. Déby qui a entretenu des relations. Déjà, les armes sont parties du Tchad. Les armes de Boko Haram sont parties du Tchad. Et Boko Haram est devenu non seulement une menace pour le Nigeria, mais une menace pour la sous-région. Et la communauté internationale doit ouvrir grandement les yeux pour effectivement aider les forces africaines dans leur composante majoritaire pour lutter contre cette secte et vraiment l'éradiquer, mais pas seulement de compter sur Idriss Déby seul pour lutter, parce qu'Idriss Déby en instrumentalise la lutte contre le terrorisme pour faire peur à ses partenaires étrangers et pour son maintien au pouvoir au Tchad.
Juste un petit peu pour continuer dans le même ordre d'idées, je vois qu'aujourd'hui la rue africaine en général et entre un choix douloureux, entre la peste et le choléra.
Tout à fait.
Soit vous choisissez la dictature, soit vous choisissez les islamistes
tout
radicaux.
Tout à fait.
On est un petit peu dans ce cas de figure, même au Tchad.
Oui, mais c'est pareil comme au Tchad. Hein. Au Tchad, heureusement que nous, on pense qu'il y a une alternative à M. Déby. L'alternative peut venir de la société civile, peut venir d'un Tchadien capable de diriger. Or, au niveau de Paris, les gens pensent que Déby est seul capable pour la stabilité de la sous-région, mais aussi pour la garantie de sécurité, notamment au Tchad et à l'étranger. Nous pensons que nous avons d'autres alternatives et nous démentons cette thèse apportée par les Occidentaux sur le Tchad.
Merci beaucoup. Et donc, au sujet de ce fédéralisme hein, que prône Idriss Déby sans vraiment réussir à l'instaurer, on voit qu'un des soucis également, en plus de Boko Haram et de ces nouveaux mouvements qui déstabilisent la région, on a des inégalités en fait, entre les populations du sud du Tchad et tout du nord, comme vous l'évoquiez tout à l'heure en début d'interview. Et puis, on a aussi l'ethnie dont fait partie le président, donc les Arawa, qui peut-être essayent de s'imposer et puis profitent de leur situation.
Absolument, les Arawa sont exclusivement une communauté majoritaire au Tchad en principe, mais ils sont majorité plutôt au Soudan, minoritaire au Tchad. Mais aujourd'hui, avec la prise du pouvoir au Tchad, M. Déby, les Arawa se sont déversés au Tchad, ils sont devenus du coup, et c'est eux qui détiennent les armes, c'est eux qui détiennent les monopoles économiques, c'est eux qui violent les femmes, qui violent les filles tchadiennes, et dans l'indifférence totale, et avec la complicité, dans l'impunité totale, parce que généralement, ce sont des fils des dignitaires du régime qui violent bien les filles tchadiennes, etc. Et donc les Arawa aujourd'hui ont pris en otage non seulement tous les Tchadiens, mais ils ont pris en otage aussi la communauté internationale et la sous-région. Vous savez, figurez-vous, l'armée française, elle est présente au Tchad. Et l'armée française est incapable, effectivement, d'intimider Idriss Déby malgré sa présence au Tchad. Donc les Arawa deviennent non seulement une menace pour les Tchadiens, mais une menace pour la sécurité des expatriés au Tchad.
Et avant de clore cette interview, peut-être par une question sur qu'est-ce qui pourrait être fait pour rassembler ces différents clans,
l'unité.
Peut-être revenir sur cet événement tragique de cette jeune fille, Zoura, qui a eu la malchance de tomber dans les griffes de cette ethnie.
Justement, Gaëlle, Zoura est une jeune lycéenne tchadienne qui a vécu en France, qui est partie au Tchad pour rencontrer sa famille et étudier. Et elle a été enlevée le 8 février 2016 par notamment 7 garçons, dont l'un est le fils du ministre des Affaires étrangères. Les 6 autres sont des fils de généraux tchadiens qui l'ont enlevée, abusé d'elle. Ils ont filmé sa scène et Zoura a été humiliée, violée, abusée d'elle sexuellement et abandonnée dans la rue de N'Djamena. Et son viol a suscité dans le pays une indignation à l'étranger aussi, une indignation. Il y avait des manifestations à Paris, en N'Djamena et dans la plupart des grandes villes européennes pour dénoncer effectivement les viols de Zoura, appeler la justice, appeler la restauration à sa dignité. J'adhère totalement à la cause de Zoura que je défends. Elle arrive actuellement à Paris et elle est actuellement à Nancy. Elle a organisé le vendredi une conférence de presse pour demander de l'aide aux organisations françaises et nous la soutenons. Elle devait être hier au Parlement européen pour intervenir devant les parlementaires à la commission femmes. Et elle appelle effectivement de CV la communauté internationale. Et je pense que je mettrai tout mon poids pour que votre radio MNE puisse interviewer Zoura, peut-être aujourd'hui ou bien demain, si vous êtes d'accord.
Bien
je
sûr.
Vais donner son numéro de téléphone. Vous allez l'interviewer en direct. Elle est actuellement à Paris. Et je pense que les médias doivent jouer leur rôle, comme votre média, effectivement, c'est un média citoyen, doit effectivement apporter son aide, non seulement en France, mais au-delà des frontières françaises, pour plus de justice dans le monde, quoi. Voilà.
Alors, c'est bien parce qu'on va pouvoir en fait revenir sur cette interview juste après une pause musicale, donc on reparlera peut-être de la situation des femmes au Tchad.
D'accord.
Et de beaucoup d'autres questions.
Merci.
En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier. Des habitudes. 500 000 nouveaux réfugiés. 5 500 000 réfugiés de plus. Encore au 21e siècle de notre monde, tant de guerres, tant de victimes. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays loin, loin de chez eux.
Avec Pierre, Iva, Mokran, Samuel et puis notre invitée Makaïla Nguebla, journaliste et blogueur tchadien, réfugiée politique en France et membre de la Maison des journalistes à Paris. On termine cette interview, Makaïla, si vous le voulez bien. Bonsoir. En revenant rapidement peut-être sur les droits des femmes et la situation des femmes au Tchad. Donc on a parlé de cette jeune fille qui est devenue un symbole maintenant de toutes ces femmes et filles qui se font malheureusement violer et abuser. Il y a d'autres questions. Un paradoxe peut-être, l'image de la femme est vraiment sacrée au Tchad et pourtant par ailleurs elles ont des difficultés à divorcer, elles ont des difficultés peut-être à trouver une place parfois dans la société. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Tout à fait Gaëlle, en fait de manière générale les droits de l'homme au Tchad sont violés constamment et les droits de la femme sont doublement violés parce que la femme tchadienne elle est aujourd'hui prise en otage effectivement par un système qui ne lui accorde pas une attention particulière, notamment pour en termes de protection de la femme, en protection de ses droits. Et donc constamment, soit la femme tchadienne ou bien la jeune fille tchadienne, elle est soit privée d'éducation. D'abord, l'éducation est un droit fondamental. Or, au Tchad, la plupart des filles ne sont pas scolarisées, elles sont abandonnées dans les villages, etc. À cela s'ajoute la question liée au mariage précoce. Souvent, à 16 ans, à 14 ans, une fille, on lui a imposé un mariage avec un homme dont elle ne voulait pas. Souvent, ça arrive. Et à plus forte raison, maintenant, c'est les violences faites aux femmes et les viols faits aux femmes tchadiennes, aux jeunes filles tchadiennes. Souvent, des femmes qui sont mariées sont souvent enlevées de force par des généraux tchadiens, enlevées de force aussi par des dignitaires du régime tchadien. Comme vous l'avez dit tout à l'heure dans l'émission, le cas de Zora est emblématique. Non seulement Zora, il y a des cas de plusieurs filles tchadiennes, et Zora elle-même, elle a témoigné dans son intervention ici, dans sa communication à la presse à Paris, elle a fait comprendre que les auteurs de son viol avaient des photos des filles qu'ils ont violées, et ces photos ont atteint à peu près presque 118 images et des vidéos qu'ils avaient en main. Ça montre effectivement la gravité de la situation dans ces pays-là, et que des institutions internationales comme UFM devait quand même intervenir pour aider les femmes tchadiennes, ou bien il faut que les structures liées en rapport avec la protection des femmes se développent dans ces pays et aident effectivement à la protection, à la défense et surtout à la sécurité de la femme tchadienne. Sinon, les femmes, leurs droits sont constamment violés. Et j'en appelle de mes voeux, effectivement, non seulement aux sociétés tchadiennes, mais aux instances internationales de voler rapidement à l'aide, ou bien d'apporter l'aide nécessaire à la femme tchadienne, parce que la femme tchadienne aujourd'hui vulnérable, hein, vulnérable dans tous les sens, et sa cause n'est pas entendue au niveau national et sa cause doit être entendue au niveau international, notamment la commission femmes et droits de la femme au niveau de l'Union européenne est interpellée pour agir au Tchad, sur le Tchad.
Donc une pensée pour toutes les femmes africaines qui sont en train de combattre, de lutter aujourd'hui pour un idéal démocratique dans leur pays à travers les ondes de la radio MNE. Restons un petit peu dans votre lutte, Mekaela. Vous êtes aujourd'hui un petit peu, vous êtes considérée comme étant un petit peu le porte-flambeau de la voix démocratique dans votre pays. Vous avez sans aucun doute, surtout avec votre blog, une idée ou quelles sont vos perspectives pour y aller vers la construction démocratique au Tchad, sachant que le terrain est miné, le terrain est fragile, sachant que l'opposition africaine en général ou l'opposition tchadienne n'est pas encore construite. Comment pensez-vous consolider un petit peu tout ça et quel est un petit peu votre appel vers la communauté internationale pour venir en aide à mieux aider à structurer tous les mouvements existants dans votre pays.
Exactement, vous avez raison, le terrain est miné, le terrain est marécageux aussi, hein, donc au Tchad, on ne peut pas agir, et on agit à l'étranger, à l'étranger à travers les plaidoyers. J'ai fait des conférences, récemment je rentre d'Espagne, où j'ai été invité par le réseau d'éducation sans frontières, à échanger avec les universités espagnoles, parce que l'idée, j'ai mobilisé en fait en Afrique, j'ai été expulsé du Sénégal, je mobilise l'Europe, parce que je me dis, il faut à la fois mobiliser la société civile africaine, je l'ai fait, et ce qui m'a valu d'être expulsé. Là, maintenant, je suis en Europe. Je dis, le cœur d'action internationale, c'est Paris. Et la France doit agir. La France, en agissant, elle pourrait changer le regard au Tchad. Donc, pour agir sur la France, il faut agir sur l'Union européenne. Et donc, je continue la mobilisation au niveau international, notamment à partir des pays environnant la France, pour que l'action de la France au Tchad change. Et donc, je fais un travail de plaidoyer, un travail de lobbying, un travail effectivement d'information sur le Tchad.
Et de pédagogie surtout.
De pédagogie également. Avec moi, d'autres activistes tchadiens que je connais, ils sont à Paris, ils sont un peu partout, à Londres, et c'est moi qui agisse. Donc c'est un travail de groupe que nous sommes en train de faire, d'actionner sur le Tchad. Et j'espère que la communauté internationale nous aidera dans nos œuvres. Parce que nous, comme vous l'avez dit, nous sommes en train de travailler pour un idéal démocratique et que je pense qu'il est important que la liberté d'expression soit considérée au Tchad. Il est important également que les droits de l'homme soient considérés au Tchad parce que c'est des valeurs fondamentales si on veut vraiment aller vers un idéal démocratique, si on veut aller vers une société tchadienne conscientisée, éveillée, et pour un État surtout des droits et des justices sociales au Tchad.
Merci beaucoup Makaela Nguebla, journaliste et blogueur tchadien. On peut peut-être rappeler l'adresse de votre blog, là où on peut retrouver vos écrits.
Mon blog c'est Makaela, makaela.fr. Donc c'est un site d'information qui est maintenant depuis Paris. J'habite à Paris, donc du coup je continue à mobiliser, à informer sur les questions, notamment des thématiques de développement, thématiques droits de l'homme, droits de la femme et surtout alternance politique dans mon pays d'origine, le Tchad.
Et on vous dit à bientôt sur les ondes de
Radio MNE. Une fois de plus, merci à tous les auditeurs du MNE, merci à toute l'équipe ici présente, à la technique, etc., mobilisée depuis quelques jours où je suis à Mulhouse. Je remercie énormément tous les journalistes ici présents avec moi. Et encore une fois de plus, merci infiniment de m'avoir accueilli.